pretty. Y'all know the vibes, but yeah, I'm gonna announce it this week.
TBA.
Also, actually DJing on 420 at NDQ. Yeah. I didn't mention it before, but you know, there isn't promotion out yet, but it will be happening.
420.
On 420.
Yeah. Keep it up.
At NDQ.
Keep tuned. This
the greenery.
The greenery. Everybody, this was Ask Miss Chris. They're telling me to wrap up, but I'll see you next week. Love you.
Bye.
Bye. Bye.
Vous écoutez Let's Beau Son avec Nathalie Nifalma sur les ondes de CKIT 90.3 FM.
Bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale pour le 40e anniversaire de la Journée de visibilité lesbienne qui sera célébrée le 23 avril prochain à Montréal, au Bar L'Idéal. Faut dire que la date exacte de la Journée internationale de la visibilité lesbienne est le 26 avril. Et afin de souligner cette journée, nous avons invité Martine Roy de la Banque TD qui finance la JBL depuis quelques années, Louise Turcotte qui a participé aux premières journées de visibilité lesbienne et Anne Michaud qui a organisé les premières journées de visibilité lesbienne à Montréal, ainsi que Julie Antoine, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec qui organise la JBL. C'est en mai 1981, à la Conférence des lesbiennes à Vancouver, que les femmes qui étaient présentes ont adopté la résolution de faire une journée d'action et de sensibilisation publique pour être visibles comme lesbiennes. C'est comme ça qu'est née la première journée de visibilité lesbienne, le 27 mars 82, qui a entre autres été soulignée à Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal. À Montréal, c'est sous le thème « Lesbiennes visibles et solidaires » que plus de 250 lesbiennes se sont rencontrées aux ateliers d'éducation populaire pour parler de ce que c'est que d'être lesbienne. À la fin du mois de mai, un groupe de lesbiennes commençait à se rencontrer pour préparer cette journée du 2 octobre sous le thème « Lesbiennes visibles l'une à l'autre ». Notre première invitée, Anne Michaud, a 19 ans lorsque le mouvement des femmes est en plein essor. Elle est étudiante en sciences politiques à l'Université de Montréal et amorce son militantisme dans la communauté lesbienne. Elle était chroniqueuse à l'émission de radio Interférence lesbienne à CIBL et elle a également contribué à la revue Amazon d'hier, lesbienne d'aujourd'hui. Elle est cofondatrice des archives lesbiennes, auxquelles elle a d'ailleurs fait don de ses propres archives. Anne Michaud était à la première JBL en mars 1982 et elle a également participé à l'organisation de la JBL du 2 octobre au Y des femmes. Nous avons le privilège de l'avoir avec nous. Bonsoir Anne, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Bonsoir, merci à toi, merci de l'invitation.
En 1982, il n'y avait pas de réseaux sociaux encore. L'information circulait un petit peu moins vite qu'aujourd'hui. Comment avez-vous entendu parler de cette conférence à Vancouver?
Alors, je vais faire une mauvaise blague. On pourrait dire que, évidemment, l'information circulait de bouche à oreille, mais dans le cas de plusieurs lesbiennes, ça circulait de bouche à bouche. Alors, pour l'histoire, il faut comprendre que les liens entre le mouvement des femmes et la communauté lesbienne étaient très étroits à cette époque-là. Moi, en 1980, en mai 80, je suis allée à Winnipeg. Je représentais le regroupement des CALACS, les centres d'aide pour les victimes d'agressions sexuelles. J'étais leur représentante du Québec pour l'association canadienne et je suis tombée en amour avec la représentante de la Colombie-Britannique et donc je me suis retrouvée à Vancouver l'année d'après pour l'événement.
Ah ben ça a été utile.
Oui, très utile. Puis il faut vraiment comprendre qu'au niveau de l'association canadienne des centres contre le viol, il y avait caucus des lesbiennes, donc il y avait des liens entre les communautés lesbiennes à travers le Canada pour échanger l'information via l'association canadienne. Donc je me suis retrouvée, je pense qu'on avait aussi une réunion de l'association canadienne au même moment, donc j'étais à Vancouver pour la conférence de Vancouver et quand je suis revenue au Québec, ben j'ai fait la promotion de l'événement.
Wow! Est-ce que tu te souviens de la première action de visibilité à laquelle tu as participé?
En fait, si on parle de l'histoire, c'est que à Montréal, au Québec, il n'existait pas de groupe de lesbiennes francophones. Et là, je ne sais plus trop si c'était en 75, probablement en 75, soit début 76. On s'est retrouvés plusieurs lesbiennes à Ottawa. Il y avait une conférence sur l'homosexualité à Ottawa. Puis on s'est retrouvés dans les couloirs, les francophones, puis on s'est dit, ben, il faut qu'on s'organise. Et c'est comme ça qu'est née la coop femme.
Okay.
Ça s'appelait la coop parce que chacune, on mettait 5 $, on était une vingtaine. Puis c'est ça que ça coûtait, une centaine de dollars pour louer un immeuble. résidence Loft sur la rue Saint-Laurent. Et c'est là qu'on a commencé à se rencontrer pour organiser toutes sortes d'activités, faire des danses, des spectacles. Donc, la vie de la communauté lesbienne francophone à Montréal a vraiment débuté à ce moment-là. Et la première action de visibilité, c'était la manifestation. Je pense que c'était dans le cadre de la Journée de la diversité. Et on était un contingent de lesbiennes. On avait une grande banderole qui disait « Lesbiennes, on étouffe sous nos masques ». Et on s'était mis des sacs de papier sur la tête avec des pancartes. Moi, j'avais une pancarte qui disait « Je suis votre tante, je suis votre mère, votre danseuse, tant plus, etc. etc. » Donc ça, ça a été la première manifestation vraiment publique des lesbiennes à Montréal, au Québec. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la coop, il y avait plusieurs tendances au sein de la communauté lesbienne. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'il existait des groupes gays, puis il existait des groupes gays anglophones, mais aussi des groupes gays. Donc, il y avait des femmes qui s'identifiaient comme gays, qui travaillaient avec les hommes gays. Mais quand nous, on a créé nos lieux, c'était vraiment... Il y avait des lesbiennes féministes, des lesbiennes radicales, il y avait des lesbiennes sportives, culturelles et tout et tout. Donc, on se démarquait par le fait qu'évidemment, on voulait créer des espaces sécuritaires non mixtes seulement avec des femmes pour partager notre réalité, notre vécu, puis organiser toutes sortes d'activités justement à caractère politique, social, culturel, sportif, etc., etc.
Même si vous aviez des allégeances quand même différentes, il y avait une belle cohésion dans ce groupe-là.
Oui, oui. Moi, je m'étais loué un petit 4,5 sur la rue Rivard. Je me souviens, à ma crémaillère, je capotais un peu parce que j'avais appelé une amie en disant « Ben là, j'ai des lesbiennes féministes dans la cuisine, des lesbiennes radicales dans le salon, des trotskistes, féministes, là, je sais plus trop. » Puis je me souviens qu'il y avait, à l'époque, Ariane Brunet qui m'avait dit « Toi, Michaud, quand tu vas te brancher un jour, tu vas être quelqu'un. » Mais j'ai jamais été quelqu'un parce que je me suis jamais branchée. J'ai toujours été, je dirais, aux confins de toutes sortes de groupes. Ben, je m'identifiais quand même clairement comme féministe, mais j'ai jamais vraiment été... j'ai toujours été un peu un esprit libre. Donc, et faisant des liens, mes amis m'appelaient Notre-Dame du réseau. Donc, je faisais plus des liens, justement, entre les différentes tendances.
J'aimerais ça qu'on parle, justement, de l'ambiance qui régnait en 1982 pendant l'organisation de cette journée-là. Puis ensuite, l'ambiance, quand les femmes se sont enfin réunies à cette journée-là. Vous n'aviez pas de financement vraiment pour organiser cette journée-là?
Non, non, non. Pendant toutes ces années-là, il y avait zéro financement gouvernemental. C'était que à partir de nos propres ressources qu'on organisait tout ce qu'on faisait. Et puis, la première journée de visibilité lesbienne, puis aussi la deuxième, il y avait surtout beaucoup plus de participantes qui venaient de l'extérieur de Montréal. Ça, c'était important pour nous de rejoindre des lesbiennes des régions. Alors, c'est sûr que on avait souvent des événements, puis on faisait des manifestations ou, mettons, la rue Lannier, Femmes sans peur. Il y a toujours un lien. Les lesbiennes étaient le fer de lance du mouvement féministe à l'époque. Donc, on était très, très, très présentes dans tous les événements organisés pour l'avortement libre et gratuit, contre la violence faite aux femmes, la rue Lannier, Femmes sans peur. On était les principales organisatrices de ces premières manifestations de nuit. Puis après, on organisait des spectacles, on était des centaines. Donc, il y avait déjà une forte mobilisation, mais les journées de visibilité lesbienne, c'était vraiment pour faire des ateliers et puis aborder des thématiques qui étaient plus spécifiques par rapport à notre vécu, en prenant des notes, en documentant, en identifiant justement des problématiques sur lesquelles, après ça, on pouvait travailler en étant plus informé de la réalité de ce qui était vécu.
Ça décrirait comment l'ambiance qui régnait?
Ben, c'est comme n'importe quel organisme qui organise une grande conférence avec beaucoup de fébrilité, avec beaucoup de logistique, avec beaucoup de satisfaction de voir qu'il y avait une réponse, que ça répondait à la mobilisation. Donc, on était toujours très heureuse de voir que les efforts qu'on mettait répondaient vraiment à des besoins de la communauté.
Le mouvement féministe était très fort à cette époque-là. Les lesbiennes ont beaucoup contribué à ce mouvement-là.
Oui.
Mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés entre le mouvement féministe et le mouvement lesbien?
Bien, je veux dire, des difficultés. Moi, ce qui m'avait frappé lors de la manif lesbienne, on étouffe sous nos masques, c'est évidemment, on avait invité toutes nos collègues des groupes de femmes féministes, hétérosexuelles à venir à la manif. Puis moi, de mémoire, je pense qu'il y en avait deux. Mmh. Donc, les féministes hétérosexuelles étaient beaucoup plus frileuses à appuyer nos luttes que l'inverse. Et ça, ça se comprend parce qu'à l'époque, s'afficher ouvertement comme lesbienne ou même parler de cette réalité-là, ça voulait dire faire face à énormément. Ça faisait que quelques années que la Charte des droits avait inclus la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle. Donc, c'était encore très, très, très tabou. Et puis, il n'y a pas beaucoup de femmes hétérosexuelles qui avaient envie de s'afficher, de peur, d'être prises pour des lesbiennes.
Puis déjà, en étant féministe, il y avait un préjugé comme quoi il était lesbienne, probablement.
Ben oui. Alors, on peut comprendre que pour elle, c'était déjà beaucoup d'être féministe, mais là, de passer pour des lesbiennes, pour plusieurs, c'est trop.
Oui, puis même pendant la journée de visibilité lesbienne, dans les années 80, la visibilité appelait à la discrétion. Il fallait respecter le degré de visibilité possible à chacune et à sa situation particulière. Alors, vous demandiez qu'aucune photo ne soit prise, ni aucun enregistrement.
Oui.
Mais il y avait un espace quand même pour celles qui n'avaient pas peur d'être visibles à l'extérieur. C'était même demandé de rester discrète lorsqu'elle parlerait de cette journée à l'extérieur, de ne pas nommer les lesbiennes qui étaient présentes.
Oui.
C'était une façon d'assurer la sécurité des filles qui se présentaient à vos ateliers.
Oui.
Parce que c'était un peu risqué à cette époque-là de se rendre visible. C'était quoi les risques?
Ah, je veux dire, des risques, il y en a eu. Des femmes qui se sont, des lesbiennes qui se sont exposées, qui ont perdu la garde de leurs enfants, que leur emploi, qui ont été harcelées. Je veux dire, c'est encore une réalité. C'est pas, mais c'était pire à l'époque parce que personne n'en parle. C'était une réalité qui n'existait pas socialement. Moi, je me souviens, à la deuxième journée de visibilité, dans l'atelier que je faisais, c'était un atelier juste de partage, puis il y avait une jeune lesbienne qui était venue d'un village. Elle était venue avec un de ses amis gays. Puis dans le village, ils passaient pour être un couple ensemble. Puis quand il venait à Montréal, lui, il allait dans les bars gays, puis elle allait dans les bars de femmes. Donc, il n'aurait pas fallu qu'en revenant, qu'il y ait un clip de télé, puis que les gens de sa famille ou ses amis ou les gens de son village voient qu'elle était lesbienne. C'était vraiment pas possible à ce moment-là.
Mm-hmm.
On était très consciente de cette... je veux dire, moi-même, à cette époque-là, moi, je faisais interférence lesbienne. J'écrivais, je publiais, j'étais très visible, puis j'étais moi-même impliquée dans le mouvement contre... J'étais la première coordonnatrice du mouvement contre le viol, donc j'étais très impliquée. J'avais fait les médias pour la rue La Nuit Femme sans peur, tous les médias, Radio-Canada et tout, mais je voulais pas m'exposer comme lesbienne parce que ma grand-mère, qui était la personne la plus significative pour moi dans ma vie, puis qui habitait à Saint-Hyacinthe, je voulais pas qu'elle soit exposée à ça, puis je m'étais toujours dit, je vais attendre qu'elle soit décédée. Là, ça fait 20 ans qu'elle est décédée, alors c'est pour ça que je te parle aujourd'hui, sans problème.
Mais ça se comprend. Moi, je suis arrivée dans les années 90, puis c'était pas encore très bien vu.
Non.
C'est vraiment une lutte de longue haleine.
Oui, tout à fait, tout à fait. Puis je dirais maintenant que ce que je constate, c'est que l'invisibilité, elle est encore là et de façon différente. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'on entend beaucoup parler de la diversité sexuelle de toutes sortes de façons. On entend très peu et on voit très peu de témoignages de lesbiennes. C'est encore très marginal comparé à toute la nomenclature de la diversité sexuelle.
Effectivement. C'est pour ça que la journée de visibilité lesbienne existe encore en 2022.
Ben oui, très contente.
J'aimerais ça que vous nous parliez de la collective du 5 octobre qui était composée de Francine Boileau, Lorraine Gagné, Lorraine Hébert, Nicole Lasselle, que je connais, et Xane Quirion et vous-même, Anne Michaud. C'était quoi cette collective-là?
Ben écoute, quand on appelle ça des collectives, c'était des créations spontanées. C'est-à-dire que, mettons qu'on est une centaine de très actives et des organisatrices, puis là, il y a des événements organisés, puis là, il y en a dans la centaine quelques-unes qui se rassemblent pour dire, ben OK, on crée un comité d'organisation pour tel événement. Donc, cette année-là, c'était ces femmes-là qui étaient sur le comité d'organisation de cette année-là.
OK, OK. C'est octobre 85, si je ne me trompe pas?
Oui, 85, oui.
J'ai vu une belle citation, probablement que c'est avec le collectif que ça a été écrit. Ça dit, on ne veut pas d'abord et avant tout que la société nous accepte, nous intègre en tant que lesbiennes, mais nous voulons, en tant que lesbiennes, transformer cette société dans laquelle nous vivons, nous changer nous-mêmes, changer la vie, c'est-à-dire que nous croyons que le lesbianisme est politique.
Oui, absolument, absolument. Et ça reste plus vrai que jamais parce que je pense qu'on vit à l'heure actuelle l'apogée du système patriarcal et avec toute la misogynie qui en découle. Je pense que c'est très, très vrai. Et là aussi, encore une fois, c'est que les lesbiennes qui définissaient comme féministes ont posé un regard critique sur le système de domination entre les hommes et les femmes. Donc, on questionnait les rapports sociaux de sexe, toutes les formes d'inégalité entre les hommes et les femmes. Alors que les femmes qui se disaient gays, elles, pour elles, c'était simplement une revendication de pouvoir faire l'amour avec qui elles voulaient. Donc, il n'y avait pas de dimension politique autre que la revendication du droit à avoir des relations sexuelles et romantiques avec d'autres femmes. Alors, nos actions étaient beaucoup plus larges que ça et étaient une remise en question du système dans lequel on vit et où les femmes sont toujours en bas de la pyramide.
D'après vous, qu'est-ce qui reste à faire?
Ben, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru, mais je crois qu'on est un peu à la croisée des chemins et je crois que le L de LGBTQ doit reprendre de la visibilité et de la parole parce qu'il y a des gains en termes de, comme on dit souvent, c'est vrai aussi pour l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est qu'on a fait beaucoup de gains en termes d'égalité des droits, mais dans les faits, c'est une autre histoire. Je veux dire, deux lesbiennes qui vont chercher un appartement. À l'heure actuelle, moi, je le vis, là où je suis à Sherbrooke, là, les propriétaires, maintenant, ils font comme des visites libres pour des achats de maison, puis ils font visiter plein de monde, puis ils choisissent. Ben, si la personne est un tant soit peu homophobe ou lesbophobe, ben, elle va pas choisir d'avoir un couple de lesbiennes comme locataire. Donc, je pense que, oui, il y a des gains, mais je crois que qu'on est un peu dans une situation fragile à l'heure actuelle et que c'est vraiment important que les lesbiennes aussi revendiquent l'importance d'avoir des lieux non mixtes, des lieux sécuritaires, des lieux entre elles où est-ce qu'elles peuvent parler de ce qu'elles vivent sans devoir forcément inclure d'autres personnes qui ne partagent pas cette réalité-là.
En tout cas, on va pouvoir se retrouver le 23 avril pour une autre journée de visibilité lesbienne.
Oui, avec grand plaisir. Ben moi, ça va faire plusieurs décennies que je vais participer à une journée. Alors, ça va me faire un grand plaisir de rencontrer mes ex-compagnes et oui. Puis la nouvelle génération. Là, je pense que c'est le temps de passer le flambeau. Puis on est quelques-unes, on prend de l'âge, on ne sera pas là éternellement. Alors, je pense que merci beaucoup de nous donner la possibilité de parler un peu de d'où on vient, parce que c'est quand on sait d'où on vient qu'on peut mieux savoir où aller.
Oui, absolument. C'est un plaisir. C'est vraiment intéressant de savoir justement d'où l'on vient, qu'est-ce qui a été fait avant qu'on arrive,
oui.
Où on s'en va aussi, parce que des nouvelles générations qui arrivent aussi, puis les enjeux sont différents.
Oui.
Oui, les enjeux sont différents, mais c'est super intéressant de vous entendre parler de l'histoire et des luttes qui ont été vécues.
Oui, ben ça me fait bien plaisir.
Merci beaucoup, Anne Michaud, pour cette entrevue.
Merci, Nathalie. Au plaisir. Merci. Au revoir.
Bye-bye.
On poursuit avec la chanson « L'épouse récalcitrante » de Claire Saint-Aubin qui a participé à la JVL en 2006 et on revient avec Louise Turcotte.
Insoupçonnable. Le bonhomme part avec la voisine part avec le bonhomme d'en face, mais cette fois-ci, c'est deux voisines. Ça passe pas en première page du Journal de Montréal, mais c'est des réalités, voyez-vous. Alors, après 20 ans de vie commune, enfin, chacune avec leur mari respectif, elles se disent un bord en bord de la clôture. Bonjour, j'ai froid, oui. Oh, oui, le prix du beurre a monté, oui. Et puis, à un moment donné, sac, là, lâche-moi le beurre, c'est ça. Je vous présente Anne-Marie Gélina, qui ce soir est ma choriste pour cette chanson. Tantôt, elle va chanter, évidemment. Alors, à un moment donné, lâche-moi le beurre, passe-moi le beurre, une femme se tanne, puis à part avec sa voisine, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Arrêtons que ça soit tabou. Alors, l'épouse récalcitrante. Un, deux, trois, quatre. Va embarquer. Je regarde ma voisine me faire des signes. Dis-moi, je pensais que sa piscine débordait. Non.
dessiner les papiers en couleur pour te faire à manger ton steak caché. Yeah!
Notre invitée Louise Turcotte a participé à plusieurs journées de visibilité lesbienne où elle a animé des ateliers sur différentes questions politiques. Elle faisait partie du collectif Amazon d'hier, lesbienne d'aujourd'hui. En 1982, le collectif crée la revue éponyme à laquelle elle participe jusqu'en 1999 et elle publie plusieurs articles sur le lesbianisme politique. Elle signe aussi la préface du recueil d'essais « La pensée straight » de l'écrivaine française accomplie Monique Wittig. Elle est toujours impliquée dans la communauté aujourd'hui au sein des Archives lesbiennes du Québec. Bonsoir Louise Turcotte, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Bonsoir Nathalie, merci à toi de cette invitation.
Tu as été très active pendant les JVL des années 80-90. Il faut dire qu'il n'y avait pas de financement dans ces années-là pour l'organisation de la JVL. Tout était fait bénévolement, avec beaucoup de cœur et de jus de bras. Quel souvenir tu gardes de ces premières journées de visibilité lesbienne qu'on appelait aussi journée d'interaction lesbienne?
Voilà. Effectivement, quand on regarde, ce qui est très intéressant, c'est de retourner à la ligne du temps que le RLQ a fait pour le 40e des JBL. Et on peut y voir tous les bilans, effectivement, des journées qu'on appelait dans les années 80 jusqu'à la fin des années 90. On appelait ça les journées d'interaction lesbienne. Alors, je pense qu'en regardant ces bilans, on peut s'apercevoir qu'en fait, l'idée même de faire ces journées-là dans les années 80, c'était de créer une communauté lesbienne. Et cette communauté lesbienne, ça incluait les bars, toutes les actions politiques, énormément de trucs culturels aussi. Donc, il y avait une grande effervescence dans ces années-là. Et je pense qu'on peut s'en apercevoir juste en regardant les programmes des premières journées d'interaction.
Oui.
Tu vois, jusqu'à la fin des années 90, c'était effectivement beaucoup sur le fait, bien sûr, la visibilité entre nous. Je pense que c'est l'esprit des années 80 et jusqu'au début des années 90, c'était une visibilité d'entre nous. Et cette visibilité-là servait aussi à essayer de faire des actions en tant que lesbienne. Donc, je pense que les années 80, on peut dire que c'était que les lesbiennes le voyaient peut-être plus comme une communauté avec un désir de militer comme lesbienne, beaucoup aussi. Je pense que ça, c'est vraiment l'esprit des années 80 qu'on peut effectivement retrouver dans ces bilans de ces journées-là.
Donc, c'est surtout important d'être visible entre vous, de vous retrouver ensemble, oui, plutôt que d'être visible...
Quand une communauté, quand un mouvement commence, les lesbiennes commencent à se regrouper, à se reconnaître. Il faut aussi voir que dans ces années-là, c'était très important. Ce qu'on peut voir aussi dans les bilans, c'est qu'il y avait énormément de lesbiennes qui aussi, c'était important de faire les choses par soi-même. Il y avait à ce moment-là beaucoup de groupes et d'individus lesbiennes qui offraient des services, que ce soit comme menuisière. C'est sûr que moi, à ce moment-là, j'étais dans l'imprimerie, donc j'imprimais beaucoup des choses pour les lesbiennes. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir juste l'évolution même des affiches des années 80 jusqu'aux années 90, là, je veux dire. Enfin, moi, j'avais une imprimée, mais j'avoue que c'était pas de très grande qualité parce que c'était de l'offset assez minimaliste, là. Mais c'était l'importance d'essayer de faire tout par soi-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours impressionné dans ces années-là, le désir de faire les choses par soi-même, sans aucune subvention. Ce qui, effectivement, tout le côté économique du fait de pouvoir faire les journées venait de la vente de la bière qu'on faisait pour les soirées après les journées d'interaction. Parce que moi, je me souviens, je pense que je peux pas me tromper en disant qu'à chaque année, on attendait à savoir qu'est-ce que ça va être la soirée après les journées de visibilité, parce que c'était assez époustouflant de voir tout ce génie lesbien. On le reprend cette année, mais à l'époque, c'était vraiment ça. Toutes les lesbiennes qui chantaient, dansaient, le théâtre, vraiment qu'il y avait une effervescence incroyable par rapport à ce qui se passait au niveau culturel à ce moment-là. Parce que ce que je pense, c'est qu'on a beaucoup focusé peut-être effectivement sur la question du lesbianisme, bon, les chicanes entre les lesbiennes radicales et les lesbiennes féministes, mais quand on regarde tous ces bilans, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas juste ça, qu'il y avait énormément de choses qui se faisaient. Il y avait énormément de revues. Il n'y avait pas juste Amazon. Il y avait 13, il y avait Ça s'attrape. Il y avait, après ça, il y a eu le projet Lavande. Il y a eu énormément de choses. Et moi, pour essayer de comprendre effectivement toute cette effervescence-là qu'il y avait au début des années 80, je recommande d'aller voir dans le bilan des journées d'interaction de 1987 que j'ai relu tout à l'heure. Effectivement, il y a un excellent historique. D'ailleurs, la journée d'interaction lesbienne en 87 s'appelait Mouvement au pluriel des lesbiennes au Québec. Et donc, elles ont fait une historique de 82 à 87, et je recommande vraiment à tout le monde pour essayer de comprendre toute l'effervescence de ces années-là.
Où est-ce qu'on peut lire ça?
C'est sur le site du Réseau des lesbiennes du Québec, sur la journée de visibilité. Quand on va sur le site, il y a effectivement, on peut voir la ligne du temps des JVL.
Oui.
D'ailleurs, les archives lesbiennes ont fourni tous ces bilans-là, de l'année 82 à l'année 92.
Oui, voilà. C'est génial.
Oui, absolument. Ça, c'est... Je pense qu'elles ont fait un très beau boulot de numérisation, et c'est extrêmement intéressant de voir l'histoire, effectivement, de ces années-là. Parce qu'on voit après ça, dans les années 2000, on voit qu'il y a beaucoup de groupes extérieurs. Bon, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait le Gay Écoute qui en avait fait. Il y avait le Centre de solidarité lesbienne. Et ça a été effectivement repris par des groupes communautaires. Mais ces groupes communautaires, ce sont tous ces groupes communautaires qui ont réussi à exister avec des subventions et qui continuent, bien sûr, à faire un travail intéressant. Mais ça change complètement l'angle, je trouve, de la vision de la visibilité lesbienne au Québec par rapport à celle qu'on avait dans les années 80-90.
Oui, absolument. C'était pas les mêmes enjeux aussi, j'imagine.
Non, absolument pas, parce qu'on commençait à l'époque, donc c'était sûr qu'il fallait d'abord et avant tout se parler entre soi. Et là, maintenant, j'ai l'impression que la visibilité, la vision de la visibilité, c'est de certaines lesbiennes dans la société actuelle. C'est comme ça que moi, que je le vois, c'est sur ce terme-là, en essayant de dire, ben, nous devons être visibles dans la société en général. Alors, je pense qu'à ce moment-là, les années 90, c'est-à-dire, comment, comme lesbiennes, comment voyons-nous la société? Quel est notre rôle dans cette société-là? qui est peut-être pas tout à fait le même angle, selon moi, en tout cas.
Ah non, c'est très différent. Il n'y a pas vraiment d'artistes lesbiennes qui s'affichaient non plus dans les médias dans les années 80.
Absolument. C'est 90, il y avait beaucoup plus de gays que de lesbiennes qui voulaient s'afficher publiquement, tout à fait.
Ouais. Mais pourtant, il y en avait beaucoup d'artistes dans la communauté lesbienne avec les spectacles qui clôturaient ces journées d'interaction-là.
Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 90, les lesbiennes qui... c'était pas des lesbiennes artistes qui étaient vraiment dans le marché culturel, le commercial. C'était des lesbiennes qui avaient une façon de voir, qui était, à mon avis, en tout cas, ce que je me souviens moi, qui avait un regard, effectivement, sur les lesbiennes et sur la société. C'était pas des lesbiennes qui tenaient absolument à se faire connaître, si tu veux, du grand public aussi. Enfin, c'est le souvenir que j'ai, moi. Là.
On se souvient de l'école Guilford qui rassemblait beaucoup aussi d'artistes lesbiennes.
Je pense que c'est ça aussi, parce que, effectivement, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les années 80-90, c'est effectivement 10 ans qui correspond aussi à l'école Guilford, c'est-à-dire à un désir de se regrouper, d'avoir des groupes à ce moment-là, de faire vivre ce lieu en dehors des bars, même si effectivement il y avait aussi les bars qui étaient tout aussi importants. Il y avait énormément de bars en même temps que Guilford, mais Guilford était un lieu où les lesbiennes se rencontraient pour faire des groupes, pour faire des choses. Il y avait évidemment Art et Geste qui était là, il y avait le Salon des Tribades. Après ça, il y a eu le Café Labyris, il y a eu les Archives Presse qui ont commencé là aussi. Donc c'était un lieu, si tu veux, social et culturel et aussi politique. Parce qu'il y a eu aussi des groupes, bon, je pense, par exemple, celui qui me vient en tête, c'est un groupe qui s'appelait Action politique lesbienne, qui sont intervenus beaucoup sur des enjeux politiques. Tout ça pouvait exister en même temps. C'est ça qui était vraiment la beauté de Guilford, c'est qu'il y avait plein de groupes de lesbiennes qui avaient des enjeux différents, mais pour qui c'était important de se retrouver dans un même lieu et de faire exister par soi-même ce lieu. Malheureusement, effectivement, c'était un peu utopique parce qu'à un moment donné, c'était absolument impossible de pouvoir payer la location de ce local. Bon, ce n'est pas un local génial non plus. Hein. C'était le premier étage d'une école désaffectée. Fait qu'on s'entend que c'était beau. Mais je pense qu'à ce moment-là, d'avoir juste un lieu, c'était pas vraiment les murs qui comptaient, c'était ce qu'on... l'énergie qui était à l'intérieur des murs et non pas les murs eux-mêmes, je pense.
Est-ce qu'il y a des spectacles qui t'ont marqué au cours des années?
Tous les spectacles. Moi, tous les spectacles, oui. je pourrais pas te dire lequel était le meilleur. J'ai l'impression qu'ils étaient de mieux en mieux chaque année dans les années 80. Je pense qu'on se souvient tous de la performance de la chorale lesbienne. D'ailleurs, les archives lesbiennes vont sûrement faire un atelier sur l'historique des chorales lesbiennes qui a eu lieu à Guilford. Je me souviens de la performance de Danielle Boutette, de Sylvie Gagnon et des chansons qu'elle créait effectivement pour nous. C'était fantastique. Là. C'était vraiment fantastique. Je me souviens des performances de Suzanne Boisvert, par exemple. C'était aussi assez exceptionnel.
J'ai vu dans la ligne du temps, justement, le 1er octobre 88, lors de la 7e journée de visibilité lesbienne. Le titre du spectacle m'a beaucoup fait rire parce que c'était « Ce que Jeannette voudrait donc savoir
». Oui, il y avait une espèce d'humour assez incroyable. Il y avait chaque année, effectivement, vraiment une idée de, bien sûr, de ne pas se prendre extrêmement au sérieux, de vraiment avoir toujours un œil assez drôle sur ce qu'on faisait. Je pense que c'est ça aussi qui caractérisait le mouvement des lesbiennes, c'est que, bien sûr, on savait rire. On était très politique, on était très culturel, mais on savait rire aussi. À chaque fois, il y avait toujours Joanne Doré qui nous faisait un monologue de lesbienne. Ça, je me souviens encore de ça. Là.
Quand tu regardes le chemin parcouru depuis les années 80, est-ce que tu considères que c'est encore important aujourd'hui de souligner la JBL?
Ah oui, bien sûr. Non. Ça, peu importe. Moi, je pense qu'effectivement, les enjeux sont différents. Les angles sont complètement différents, mais je pense qu'il ne faut absolument pas, il n'y aura jamais rien de gagné. Donc, c'est extrêmement important, effectivement, qu'on continue à dire l'importance d'avoir une visibilité lesbienne dans les sociétés aujourd'hui. En tout cas, pour moi, ça reste vraiment la première chose. C'est vraiment quelque chose sur lequel je vais toujours être d'accord. D'abord et avant tout, une visibilité lesbienne, c'est extrêmement important.
D'ailleurs, cette année, dans le zine Portrait du RAQ, il y a des portraits des femmes qui sont là depuis les premières journées de visibilité lesbienne. Il y a donc un portrait de toi aussi.
Oui, il y a Dine, il y a Nopla. Il y a malheureusement notre Marie-Michel qui est décédée et qui était tellement militante aussi. D'ailleurs, dans celui de 87, c'était Marie-Michel, je me souviens, puisque c'est moi qui ai fait le bilan de 87 et que j'ai travaillé avec elle. Je pense que Marie-Michel était quelqu'une aussi, un personnage extrêmement importante dans le milieu lesbienne et aussi dans le milieu féministe, je pense aussi.
Anne Michaud aussi, ouais. Qu'on a pu entendre ce soir. On invite les filles à se le procurer, le zine. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission, Louise. C'est super intéressant. Je pourrais faire une heure avec toi, je suis sûre.
Ben, c'est moi qui te remercie. Allez.
À bientôt.
À la prochaine.
Merci.
Allez, ciao. Bye.
On a le plaisir d'avoir Julie Antoine avec nous, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec. Bonsoir, Julie.
Bonsoir.
Dans les dernières années, la Journée de visibilité lesbienne a été organisée en collaboration souvent par plusieurs organismes, dont le Centre de solidarité lesbienne, le Gris Montréal, Gay Écoute, et depuis quelques années par le Réseau des lesbiennes du Québec qui l'organise seul. Quel est l'objectif principal de cette journée?
Bien, l'objectif, c'est donner de la visibilité aux lesbiennes, mais aussi aux enjeux qui concernent les lesbiennes, parce que souvent, elles sont invisibles dans les grosses journées thématiques, par exemple dans les fiertés ou par exemple encore dans la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est excessivement rare qu'on entend parler des lesbiennes. Donc, c'est un acte politique qui vise à redonner du pouvoir aux communautés lesbiennes, puis aussi à prendre la parole sur une sphère plus médiatique qu'on a rarement.
Le RLQ a fait une ligne du temps des JVL pour le 40e anniversaire qu'on célèbre cette année. C'est une journée qui demande beaucoup d'énergie à organiser. Pourquoi cette journée était toujours importante en 2022?
Parce que ça démontre encore que 40 ans plus tard, les mêmes combats puis les mêmes discours sont présents. T'sais. Le sexisme systémique auquel on est confronté en tant que communauté lesbienne vient vraiment affecter la libération des femmes de la diversité sexuelle, mais aussi leur émancipation au niveau de la société. Donc, c'est sûr que lorsque l'égalité entre les hommes et les femmes sera atteinte, on arrêtera de fêter la journée de visibilité lesbienne. C'est pour ça que pour nous, c'est vraiment un acte politique de revendication aussi pour cette visibilité-là. T'sais. Ça rentre en thématique avec la campagne. Invisibiliser, c'est disséminer. Donc, c'est tout le contexte politique qui fait que trop souvent, on invisibilise les enjeux des femmes qui malheureusement subissent cette double discrimination en lien avec leur identité de genre et leur orientation sexuelle.
Est-ce que tu sais ce qui explique que la JVL n'a pas été célébrée entre 92 et 2005?
Tu sais, Nathalie, dans la vie, des fois, il y a des pauses, puis il y a des remises en question, puis il y a des actions qui se font moins, il y a des alliances qui se transforment, en fait. Je pense que la JVL démontre justement le courant de la vie en 40 ans. Il y a des in and out, il y a des moments où on se reclut et tout. Le mouvement lesbien en fait partie également. Puis parfois aussi, les lesbiennes sont allées militer dans des mouvements à plus grande échelle, là, c'est-à-dire LGBT ou féministes sur certains enjeux. Donc c'est sûr que militer pour la visibilité lesbienne, il faut qu'on soit bien ancré dans les communautés quand même LGBT puis féministes pour pouvoir mentionner cette invisibilité-là. Si on n'est plus dans ces milieux-là, puis on ne peut pas porter le drapeau, c'est un peu compliqué aussi pour nos revendications. T'sais. Donc ça peut être plein de facteurs qui engendrent ça. Et le dernier, c'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Tu sais, les lesbiennes se sont toujours organisées avec pas d'argent. C'est comme important, là, c'est du militantisme pur et dur. Là. Ils se mobilisaient, ils finançaient à 100% ces journées-là. Donc, jusqu'à temps que les organismes communautaires reprennent la balle un peu en disant, là, ça n'a pas d'allure. C'est vrai que les lesbiennes n'ont pas de visibilité. Et puis, c'est reparti, tu sais.
Il y a peut-être eu un essoufflement aussi dans ces années-là.
Ben, c'est sûr que quand tu portes tout seul la coupole pendant plusieurs années, c'est compliqué, tu sais. C'est toujours plus facile de porter une coupole à plusieurs. C'est moins lourd, puis on peut marcher plus longtemps. Après, on prend des pauses. C'est comme ça, tu sais.
Et en 2019 et 2020, la porte-parole était l'auteur-compositrice-interprète Safia Nolin. En 2021, c'est la mannequin internationale Eve Salvaille qui était porte-parole. Et cette année, c'est l'humoriste Coco Béliveau. Est-ce que c'est facile de trouver une porte-parole pour la journée de visibilité lesbienne?
Si c'est facile, je pense qu'on a fait des choix bien spécifiques sur des personnes qui ont quand même un côté militant, là, un côté qui sont impliquées dans la communauté, qui ont vécu de la lesbophobie. Donc, on va pas chercher des porte-paroles qui sont inaccessibles ou qui sont très médiatisées. T'sais, on va pas aller vers un refus. Je pense qu'on s'adresse à des porte-paroles qui sont vraiment touchées par la cause et qui veulent militer, t'sais, qui ont un côté militant. Donc, oui et non en même temps. Je sais que c'est plate comme réponse, c'est un peu politique. On a eu des refus sur certaines porte-paroles. C'est correct, t'sais. C'est des raisons personnelles. Il y en a qui veulent pas faire un coming out en lien avec la communauté lesbienne, qui préfèrent s'associer aux communautés plus LGBTQ, maintenant qui est rendue quasiment une identité à part entière. Donc, la presse des lesbiennes est pas toujours bonne, puis ça prend des filles qui ont quand même du charisme pour pouvoir assumer un rôle de porte-parole de la sorte. On a vu que Safia Nolin, on avait, en nos premières années de la JVL ou RLQ, Safia Nolin avait beaucoup été intimidée face à son rôle. On a vu aussi cette année que Coco, par exemple, a eu des questionnements sur son Instagram et tout. Donc, c'est sûr que la communauté sur les internets est quand même très présente sur les médias sociaux. Les commentaires se font de moins en moins filtrés. Donc, c'est sûr que tu t'exposes. À chaque fois que tu t'exposes, tu es en période de vulnérabilité. Donc, c'est sûr que ça engendre des conséquences. Ça doit faire des enjeux aussi pour la personne qui prend ce rôle-là. T'sais.
D'ailleurs, vous aviez écrit un article sur le prix à payer pour sortir de l'ombre quand c'est arrivé à Safia Nolin.
Je pense que ça résume tout ce qui est en lien avec la visibilité lesbienne. Dès qu'on parle des lesbiennes de manière positive, ben, on se fait démoniser. On se fait remettre au placard et c'est ça l'enjeu. On tente de valoriser l'identité lesbienne, dénoncer les inégalités et la première réaction du public, c'est souvent justement de reproduire ces violences-là qu'on subit tout le temps. Donc c'est ça, c'est compliqué. Cet article-là qui a été publié dans la presse démontre vraiment à quel point cette journée est importante, tu sais. Puis c'est sûr qu'on s'attend pas au RLQ à passer dans la ouate, là. On s'attend aussi à avoir des échos. Mais bon, toutes les prises de parole militantes féministes, c'est ça. À chaque fois qu'on parle ou qu'on milite pour l'égalité, ben malheureusement, il y en a qui sont pas d'accord, puis c'est ça. Donc, il faut faire quand même attention, même en 2022, c'est ça qui est triste.
Depuis 2020, il y a le zine Portrait des femmes de la diversité sexuelle qui viennent de partout au Québec. Quelle était l'idée derrière ce zine?
Bien, c'était donner de la visibilité, premièrement, créer des ouvrages aussi pérennes, mais aussi montrer qu'il y a une multitude de personnes dans nos communautés, multitude de femmes, multitude de visages, proposer quelque chose de positif, d'émancipateur aux jeunes générations. Donc, c'est vraiment ça, montrer que, dans le fond, il n'y a pas un stéréotype de la lesbienne. Il y en a plein, la lesbienne, c'est n'importe qui dans la rue, peu importe son expression de genre, la façon dont elle s'habille, la façon dont elle se coiffe. Donc c'est ça, c'est comme déconstruire en fait les préjugés qui ont été prodigués par la société patriarcale, tu sais.
Et pourquoi les modèles lesbiennes ont-elles un rôle aussi important à jouer selon toi?
Les lesbiennes ont toujours été en avant-plan des luttes féministes. C'est très important à mentionner. Elles se sont battues pour les droits à l'avortement, se sont battues pour les hommes gays au niveau du sida. Les lesbiennes sont contre la majorité des principes de cette société, que ça soit au niveau du capitalisme, que ça soit de l'hétéronormativité ou que ça soit du patriarcat, les lesbiennes sont contre, sont majoritairement idéalistes dans les militances, là, évidemment, je parle. Donc, elles sont essentielles parce qu'elles ont une perception qui est différente, en fait, de la société. Donc, leur point de vue est important, tu sais. On peut pas dire que, tu sais, il faut jamais prendre tout cash dans la vie, hein, tu sais. Il faut jamais tout gober, il faut jamais faire que de l'introjection. Mais c'est important de s'ouvrir à leur discours parce qu'elles déconstruisent quelque chose. Et en plus, contrairement à d'autres mouvements, elle propose des solutions. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec les communautés lesbiennes.
Cette année, c'est une des plus grandes campagnes qu'il y a eu pour la visibilité lesbienne. Est-ce que tu veux nous en parler?
En fait, c'est la seule. J'en connais pas d'autres. Je connais pas d'autres campagnes de visibilité qui ont été faites à aussi grande échelle à travers les 17 régions du Québec. La campagne Invisibiliser, c'est discriminer, ça vient vraiment pour donner un aspect très politique à cette journée, à ces revendications, parce que, tu sais, après, les hétéros vont dire « Ouais, mais moi, j'ai pas de journée pour moi. » Les hommes vont dire « Ouais, mais moi, j'ai pas de journée pour moi. » Mais comme je l'ai dit précédemment, le jour où l'égalité va être atteinte, on va l'enlever la journée. Donc, c'est pas une question de toujours mettre de l'avant. Non, non, c'est une question de revendication. Donc, pour nous, c'est important d'être entendu, d'être vu, d'être perçu et de reconnaître qu'on vit une discrimination qui est spécifique. Donc, arrêtez de toujours nous agglomérer dans l'acronyme LGBTQ parce que on est multiple, on est là, puis on est 50% de la population, donc on a 50% des réalités. Lorsqu'on parle de l'acronyme au sens large, jamais on pense aux femmes. Lorsqu'on parle d'homosexualité, jamais on pense aux femmes. Quand on parle de personnes queer, jamais on pense aux femmes. À un moment donné, c'est ça. C'est parce que à force de nous homogénéiser, en fait, on perd l'essence même des inégalités homme-femme, et ça fait que pour nous, les lesbiennes, ben, on régresse dans nos luttes à l'égalité. Donc, c'est essentiel de visibiliser les lesbiennes. Puis quand on parle de lesbiennes, c'est toutes les femmes qui sont en relation lesbienne. Hein. Ça, c'est important que la femme soit bisexuelle, qu'elle soit pansexuelle, qu'elle soit asexuelle. Lorsqu'on est en relation lesbienne, ça engendre des conséquences énormes sur notre façon de vivre, autant au niveau de la conception des enfants, au niveau de l'emploi, au niveau du statut salarial, au niveau des problématiques de santé. On a des profils tellement différents que les hommes, que les personnes même trans, les personnes queer. Il faut pas homogénéiser. Quand on homogénéise, on invisibilise. Et c'est ça, justement, le discours même de la campagne. Invisibiliser, c'est discriminer.
Il y a aussi un prix de visibilité lesbienne et un prix hommage qui est remis à chaque année. Est-ce que tu peux nous parler de la JVL qui sera célébrée le 23 avril prochain au Bar L'Idéal?
Oui, en fait, ça va être une journée d'enregistrement avec des podcasts. On a l'animatrice, ça va être Eugénie Lépine-Blondeau. On va avoir 3 panels. Il va y avoir un panel sur les organismes qui ont porté la JVL pendant plusieurs années, mais des organismes qui n'ont pas une vocation spécifique pour les femmes. Donc, leur demander le pourquoi du comment. Ils ont voulu s'impliquer justement spécifiquement pour les femmes. femmes. Il va y avoir aussi un panel avec des militantes lesbiennes qui ont porté, elles aussi, plus dans les années fin 80, début 90, la JVL, plus du milieu de la scène, en fait, là, qui ont créé des spectacles parce que les lesbiennes sont très, très artistiques. Donc, on voulait justement qu'elles nous parlent de cette action créatrice qui est politisée, en fait. Et par l'art, les lesbiennes ont souvent changé le monde. C'est un des moteurs, en fait, de leur façon de fonctionner. Et on va avoir aussi un panel avec, évidemment, le prix Visibilité cette année et le prix Hommage. Et on va faire aussi un hommage à Joanne Coulombe qui nous a quittés trop rapidement. On a eu le temps de créer un prix spécial pour elle, le prix militantisme. Je pense que ça va être la première et la dernière fois et on va le remémorer, ce prix-là, à chaque année. C'est ça, donc une journée tout en couleur, mais aussi très intéressante au niveau du contenu. Ça va être à l'idéal. Puis ça va finir par un 5 à 7. Les podcasts vont être diffusés à partir du 26 avril, hein, qui est la date de la journée de visibilité lesbienne fêtée à l'international. Donc on va mettre ces podcasts-là sur notre nouvelle page web qui est visibilitelesbienne.ca. Donc, tout le monde va pouvoir y avoir accès. Puis, on aimait beaucoup l'aspect podcast parce que c'est un médium qui voyage bien à travers les régions, mais aussi à travers les pays.
En terminant, comment as-tu décidé de faire de ce combat ton métier?
En fait, c'est la vie qui m'a amenée là. Je n'ai pas fait le choix d'être là et je me suis découverte à travers ça aussi. J'ai découvert des forces, des faiblesses. J'ai découvert une passion pour le militantisme, pour tout ce qui est la revendication des droits, me battre contre les inégalités. Puis c'est grâce à toutes les personnes qui sont autour de moi, en fait. C'est grâce à notamment mon équipe, tu sais, Julie Vaillancourt qui est avec moi depuis le début, il y a Florence Gagnon également, Cynthia Essérick, maintenant plus récemment, il y a Cassandra Rivet. J'ai beaucoup grandi à travers toutes ces personnes-là, ils m'ont beaucoup partagé et il ne faut pas non plus négliger tout l'impact des plus anciennes communautés lesbiennes qui m'ont énormément inspirée, qui m'ont donné beaucoup de connaissances, qui ont partagé avec moi. Je vais dire ça grossièrement, là. Les vieux ne veulent plus parler aux jeunes, ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas mon expérience. Elles m'ont parlé, elles m'ont réconfortée quand j'en avais besoin. Elles m'ont chicanée quand je faisais pas les bonnes affaires, mais elles ont toujours été dans l'accueil et le respect. Et ces femmes-là sont incroyables et c'est vraiment à elles que je remercie tout mon cheminement, notamment à Joanne Coulombe.
Et ça se voit parce que tu fais un travail extraordinaire au sein du RLQ. C'est génial.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va essayer de continuer.
Oui, absolument. Merci beaucoup. Julie-Antoine, on va se voir le 23 avril prochain au Bar L'Idéal pour fêter le 40e anniversaire de la journée de visibilité lesbienne.
Yeah, super!
Merci beaucoup.
Merci.
Bye-bye.
Bye-bye.
On s'en va en musique avec Pomme, la chanson Soleil, Soleil, et on revient avec Martine Roy.
1, 2, 3. Ne me demandez pas pourquoi, quand vient l'hiver et le grand froid, on voudrait tous mourir. Comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras, on voudrait tous partir, retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante, oh reviens soleil, soleil. Regardez jamais en bas où le méchant loup vous mangera, vous perdrez l'équilibre. On va tous compter jusqu'à trois et faire une chaîne avec nos bras sur la route du sud. Retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil. Que vient la neige et le fracas, on ne va pas tous mourir. Entre les braises, on marchera et la nuit noire nous embrassera. On pourra tous partir. On pourra tous partir.
Nous avons le plaisir de recevoir Martine Roy, qui est entre autres directrice régionale du développement des affaires LGBTQ2+ du Québec et de l'Est du Canada pour la Banque TD. Depuis 2019, la Banque TD est partenaire de la Journée Visibilité Lesbienne. Bonsoir Martine, je sais que tu es très occupée dans différents projets. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler.
Non, mais ça me fait plaisir, Nathalie. Ça fait toujours plaisir de parler avec toi.
C'est gentil. Le financement, c'est essentiel pour faire rayonner cette journée-là. C'est le 40e anniversaire de la JVL et pendant des années, cette journée n'a pas été financée. Les groupes de femmes faisaient des pieds et des mains pour arriver à organiser cette journée. Comment s'est amorcée la collaboration entre la Banque TD et la JVL?
Bien, c'est ça. Dans la vie, je pense que c'est tout le temps une question de timing, où tu te retrouves. Et là, de me retrouver chez TD, je suis rentrée là en 2019 suite à avoir travaillé chez IBM. Je me suis retrouvée dans un poste justement où je peux faire la liaison entre la communauté et la banque. Puis ça a été un peu, tu sais, ça a été premièrement, ça faisait longtemps que j'avais pas fait la fierté à Montréal. Puis quand je me suis retrouvée à la fierté à Montréal, je me suis rendu compte que les femmes n'étaient pas là. On n'avait pas notre place. J'ai même été dans un événement, dans un consulat, puis j'avais une jeune femme noire, queer, qui me disait « Oh non, moi je me vois pas à la fierté, c'est pas ma place. » Puis même des femmes qui avaient vécu la purge, qui sont venues, puis en fait, hey, nous, c'est la première fois de notre vie qu'on vient à une fierté. Là, je me dis, c'est quoi ça? Où étiez-vous? Puis les gens, à la fin de la journée, ça me dit tout, on sent pas qu'on a notre place. Alors pour moi, avant tout, je suis une femme et ça me parle, ça. J'ai été capable de me retourner le bord puis de dire justement, chez TD, c'est vraiment génial, là, vous êtes là pour la fierté, vous êtes là pour les maisons, pour les gens qui ont des problèmes avec le sida, vous êtes là pour toutes sortes d'affaires, mais vous n'êtes pas là pour les femmes. Vous n'êtes pas là pour les femmes lesbiennes, sexuelles, queer, transgenres. Et pour moi, ça manquait. Et je veux dire, le réseau des lesbiennes du Québec, ben, c'est la référence. Puis je trouvais ça la parfaite opportunité de dire, hey, on peut-tu travailler ensemble? Tu sais, c'est une journée de visibilité lesbienne. Alors, tu sais, on va mettre l'emphase dessus pour rendre ça visible. Puis pour moi, indirectement, peut-être, c'est moi qui, dans ma tête, là, je me disais, c'est un peu la fierté, hein, des femmes de la communauté, la journée de visibilité lesbienne.
Mais c'est une journée importante, en tout cas, pour la communauté lesbienne, c'est sûr.
Mais c'est ça. Justement, en parlant de ça, j'ai réussi à convaincre, justement, puis il y avait aussi le fait que le RLQ collaborait avec LSTW. Alors, il y avait aussi Florence. Moi, Florence, ça faisait depuis 2012 là, que je la suivais. Parce que j'aime beaucoup l'image qu'elle représente. Elle représente vraiment une image multiple de toutes les femmes, t'sais. Avec ces soirées où sont les femmes et tout. Alors, pour moi, la collaboration qui s'est faite, ça avait encore une plus grande valeur. Ça m'a aidé, justement, chez TD à vendre l'idée qu'on va devenir partenaire de la Journée des idées lesbiennes, puis que c'est une bonne chose. Puis on a commencé plus petit. Là, je ne sais pas si tu as vu, mais là, on grandit. On vient même de signer un partenariat cette année pour les trois prochaines années. Alors, ici, d'assurer une pérennité, là. C'est pas juste dire, OK, on se donne de l'argent cette année parce que c'est pitié. C'est quasiment ça, des fois, tu dis, hein? Non, non. On veut être à la même place que tous les autres organismes, être supporté. Puis je pense que c'est en faisant ça, Nathalie, en investissant dans le réseau des lesbiennes du Québec, qui n'a jamais eu vraiment d'investissement comme ça. Puis j'aimerais ça qu'il y ait d'autres compagnies là, qui viennent aider à vous supporter. Je pense qu'il va y avoir un plus grand rayonnement. Puis là, on va vraiment être capable de dire, bon, la journée des lesbiennes, c'est quelque chose à ne pas manquer. C'est là pour toutes les femmes de la communauté.
Absolument. Est-ce que tu as dû te battre beaucoup pour libérer ces fonds-là à la TD ou ça a été quand même relativement facile?
Non, on m'a bien écouté, ça a l'air que je suis assez convaincante quand je veux. La seule chose, tu sais, c'est que je trouve que c'est pas égal. Tu sais, j'ai pas eu autant d'argent qu'on pourrait dire qu'on a pour Fierté Montréal ou en d'autres. Tu comprends?
Ah ouais.
Alors, dans ma tête, je veux bâtir ça. J'aimerais ça que ça devienne au même niveau, là. Tu comprends?
Ouais.
Qu'on investisse autant. Mais, pour moi, le plus gros du travail est fait parce que j'ai réussi à faire entrer le RLQ comme un organisme partenaire de la Banque TD. So, en faisant ça, même si ma plume disparaît, vous êtes encore là. Tu comprends? C'est réglé. J'ai même pas eu à dire beaucoup pour renouveler les trois années qui viennent de venir. C'est vraiment l'équipe du don à la communauté qui ont dit, OK, nous, on veut donner, on aimerait ça donner. Alors, tu sais, c'est comme ça l'a grossi, puis ça fait des petits par soi-même. Puis ça, pour moi, ça a une très grande valeur aussi. Parce que souvent, tu vas te dire, les bailleurs de fonds, c'est les fonds de tiroir, ils vont donner sur un montant, puis tu sais jamais si ça va revenir. Tu sais, c'est jamais trop clair. Puis moi, je trouve que tu ne rends pas service aux organismes communautaires quand tu fais ça. C'est sûr que c'est bien donner de l'or, de l'argent et tout. Mais en même temps, je pense que c'est le fun de pouvoir s'investir complètement comme partenaire et dire, OK, quels sont les projets que vous avez? Qu'est-ce que vous avez besoin pour réussir à délivrer ces projets-là? Et d'être plus présent parce que faut penser, moi, je le fais pas juste pour aller juste à la clientèle, je le fais pour mes collègues qui sont de la communauté LGBTQ2+, qui se voient là-dedans, qui font partie de la communauté, qui vont participer à la journée de visibilité lesbienne et tout. Je le fais aussi pour la communauté, pour mm-hmm. toutes les femmes de la communauté. Et évidemment, après ça, la clientèle, parce que à la fin de la journée, tout le monde a besoin d'une banque. Hein? Tout le monde n'a pas vraiment le choix. Et l'offre est pas mal similaire à ce moment-là. Donc, tu peux choisir la banque qui a les mêmes valeurs que toi. L'institution financière qui investit ou toi, tu penses que c'est important. C'est pour ça que j'ai pris ce rôle-là, moi, justement, à la banque TD. C'est pour ramener ça puis dire, regardez, plus vous allez venir travailler avec moi, mais moi, plus je vais être capable de convaincre la banque à aller travailler avec nous autres. C'est vraiment un beau win-win.
Oui, c'est vraiment génial le travail que tu fais. D'assurer les prochaines années aussi de la GBL, c'est vraiment génial. Merci beaucoup, Martine, pour ce que tu fais.
Ça me fait très plaisir.
On n'a pas le temps de parler de tout ce que tu fais pour la communauté aujourd'hui, mais on va se reprendre assurément.
C'est sûr. Puis moi, j'invite tout le monde qui nous écoute en ce moment, justement, à prendre exemple. Comme tout le monde avait pris exemple de TD en 2005, qui a fait Fierté Toronto, mais la même chose, let's go, prenez exemple, puis venez aider la GBL, le Réseau des lesbiennes du Québec, à devenir un événement plus gros que nature.
Merci beaucoup.
Merci à toi. À bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir été à l'écoute et merci à nos invités. On cesse avec la déclaration de Manon Massé, qui a parlé de la journée de visibilité lesbienne à l'Assemblée nationale. Elle sera suivie par une chanson de Calamine. Nous, on se donne rendez-vous le 2 mai pour une autre émission de Lesbosson. À bientôt.
Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques.
Merci, M. le Président. Cette année marque le 40e anniversaire de la journée de visibilité lesbienne. L'histoire de cette journée remonte à 1982, où près de 150 lesbiennes se réunissaient aux ateliers d'éducation populaire à Montréal pour débattre de l'organisation de cette toute première journée de visibilité officielle. Quatre décennies plus tard, l'événement, qui est maintenant chapeauté par le Réseau des lesbiennes du Québec, garde toute sa pertinence et son importance pour notre communauté. Sous le thème « Invisibiliser, c'est discriminer », la journée aura lieu le 23 avril prochain au Bar L'Idéal à Montréal. Au programme, on prévoit l'enregistrement de 3 balados, une remise de prix en compagnie de la porte-parole Coco Béliveau et de l'animatrice Eugénie Lépile-Blondeau. L'événement sera suivi, bien sûr, par un 5 à 7 festif. À toutes les lesbiennes du Québec, je vous souhaite une bonne célébration et comptez sur moi pour être présente le 23 avril pour notre journée de visibilité. Merci, M. Poulin.
Merci, Mme la députée.
De féministes puis d'être crédible. Quand personne n'ose le faire parmi les ministres, même celles qui ont pas de pénis, ça dit égalitaire puis qu'il n'y a plus rien à faire. Même les femmes d'affaires sont plottées par la main invisible. Les filles se font dire de pas parler trop fort, puis on laisse les ondes radio dans les mains des gros porcs. Les garçons vont être tous tapés à cause des gilets, c'est bizarre. Les becs roses sont plus chers que les becs noirs. Féministes frustrés, je sais pas si tu le sais. Y'a un plafond en béton qui m'empêche de me propulser. Y'a de quoi s'offusquer. Mansplaining and shit. C'est moi qui ai fait ton training puis c'est toi qui m'explique. C'est le ça s'excite sur des sales pubs sexistes. C'est toute ta gloire que tu donnes à voir dans tes dick pics. Vaut mieux te taire, ça a de l'air que les scorpions piquent. J'ai pas de queue, c'est clair, mais j'ai pareil un bon kick. Je suis la grosse Gwyn rabat-joie qui dit blablabla bla bla. Ça passe par une oreille puis ça sort déjà par là. Je mets un gros fret dans ton cocktail de bourgeois. Tu te demandes pourquoi on dit les affaires tout bas. Je suis la grosse Gwyn rabat-joie qui dit blablabla bla bla. Ça passe par une oreille puis ça sort déjà par là. Je mets un gros fret dans ton cocktail de bourgeois. Tu te demandes pourquoi on dit les affaires tout bas. J'ai des fight back authentiques. Mon track te donne une notice. Tu rates la moitié des gags à cause que t'es pas vite. Tu connais-tu de la porn descente? Moi j'ai pas de titre. Des sexes d'adolescente, les lèvres petites. Les métaphores de blowjob, c'est pas visionnaire. Slap un rapport transphobe avec un dictionnaire. Toutes les femmes savent danser. Qu'est-ce que t'en sais? J'suis pas mal moins de madame, qu'est-ce que tu peux penser? Mon ego, on pas besoin de marque de shoes. J'fly solo, mais mon flow est sur le cruise. J'ai le coco, rasé à zéro. puis zéro envie de rien raser d'autre. J'ai une coupe de boat loose. Ma tuque, c'est pas pour le swag, fait frais dans un schlag. Mais j'ai des potes qui tricotent puis qui m'achètent des gros bags. De potes qui me tricotent des idées de rap. Même si je me rap dans mon foulard, j'ai les dents qui claquent. Je suis la grosse Gwyn rabat-joie qui dit blablabla. Bla bla. Ça passe par une oreille puis ça sort déjà par là. Je mets un gros frais dans ton cocktail de bourgeois. Tu te demandes pourquoi on dit les affaires tout bas. Je suis la grosse Gwyn rabat-joie qui dit blablabla. Bla bla. Ça passe par une oreille puis ça sort déjà par là. Je mets un gros frais dans ton cocktail de bourgeois. Tu te demandes pourquoi on dit les affaires tout bas. C'est pas juste la calotte. Mon genre ambigu te brain fuck. Je réinvente le cop slap. Je te pitch mon diva cop. Frufru monstre, c'est bad luck. Je te parle en cap luck. La chose à faire, c'est prendre l'air, faire le tour de quatre blocs. C'est 3 minutes et quelques de chansons, ça choc. Mets-toi dans mes souliers non name puis passe-moi la poc. C'est pas plus risqué que quand tu fuck, pote, capote. Une queue, ça pas Dieu. Une plot, c'est une plot. L'anti, je boycotte. Les mecs fly, puis les pin-up. Les filles sont droguées dans leur cocktail. Donne-moi donc un 7-up. C'est back-à-back, attention, c'est non-stop. Même tes bons potes te servent des arguments qu'on pote, puis ça complote. As-tu déjà joué au pool avec une gang de doux? Ça s'est conjugué tous les temps du verbe rude. C'est pas un verbe ni une question, comme un bon garçon. Il grimpe sur la table, il fait ton éducation. Je suis la grosse Gwyn rabat-joie qui dit blablabla. Bla bla. Ça passe par une oreille, puis ça sort déjà par là. Je mets un gros frais dans ton cocktail de bourgeois. Tu te demandes pourquoi on dit les affaires tout bas. Je suis la grosse Gwyn rabat-joie qui dit blablabla. Bla bla. Ça passe par une oreille, puis ça sort déjà par là. Je mets un gros frais dans ton cocktail de bourgeois. Tu te demandes pourquoi on dit les affaires tout bas.
Virus means remaining cautious. We must continue wearing a mask and washing our hands. At the first sign of symptoms, it's crucial to self-isolate and get tested. Those who have COVID-19 must respect the isolation period, since they can remain contagious for at least 10 days. Those most at risk for developing complications, either because of their age or because they're immunocompromised, must be especially careful. And for even better protection, get vaccinated. A message from the Gouvernement du Québec.
Pangea de Futura is a mega jam collective comprised of many veterans of the Montreal music scene, a wide range of tectonic plates coming together, making the world stop for a second and ripping these continents apart. CKUT 90.3 FM is proud to present their concert in collaboration with CHYZ 94.3 on Sunday, May 22nd at 3 p.m. at the 38th Festival International the Musique Actuelle de Victoriaville. For all the details on the 38th FIMAV, visit fimav.qc.ca.
Stuff, Robot Boy! Hello, this is the artist formerly known as Christ from the Guided by Voices, and you're listening to CKUT 90.3 FM, listener-powered community radio. Don't forget to check out the new Circus Devils album.
Hello and welcome. You are listening to Underground Sounds on CKUT, and I'm your host, Nick Schofield. Thanks for tuning in. I'm with you every Monday from 8 to 10 p.m., playing all Canadian independent music on the radio.